Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. L'art de dire, l'air de rien, avec une mélancolie exquise. Ça fait 40 ans qu'Alain Souchon met du sens derrière chaque note et tisse la bande-son de nos vies.
Europe 1.
Bonjour Alain Souchon.
Bonjour, je suis flatté.
Cher Alain, j'ai attendu longtemps, j'ai envie de dire même très longtemps notre rendez-vous, car vous n'avez pas de portable et donc vous joindre est compliqué. Alors pas de portable, c'est de la coquetterie ou bien c'est de la résistance ?
C'est de la coquetterie, c'est pour me donner une personnalité, en dire il a pas voilà. De portable, il est génial, il a même pas de portable. Non, c'est parce que j'ai jamais été un fou du téléphone. Je suis pas un bavardeur au téléphone, peut-être un petit peu avec Woolsey des fois, quand ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et que voilà, je demande des nouvelles. Donc, ne pas avoir de portable, c'est plutôt assez marrant.
Alors, pas de portable, pas d'ordinateur, pas de tablette. Non. Vous écrivez à la main avec un compagnon que vous trouvez délicieux et qui est un luxe, oui. L'ennui. C'est un carburant efficace, l'ennui.
Ah, ça, certainement, mais c'est un carburant, bien sûr. Mais il existe de moins en moins à cause de justement toutes ces technologies qui font que les enfants, dès le plus jeune âge, on les met devant la télévision où il y a des choses très amusantes, des dessins animés de plus tendre enfance. Et puis après, il y a les tablettes, et puis il y a les jeux, et puis il y a les... Et ils sont en contact par téléphone avec leurs amis. Donc, tandis que moi, dans ma génération, on s'emmerdait. On nous donnait des bouquins à lire et tout ça, qu'on lisait. Mais aussi, on trouvait ça fastidieux par moments et tout. Donc, on s'ennuyait. Donc, c'est pour ça que je me suis acheté une guitare et que j'ai gratouillé ma guitare parce que ça meublait la chambre du son de la guitare. Et puis, après, je trouvais des mots, puis je trouvais ça joli. Déjà, même si c'était des niaiseries que je disais au début, mais je me disais, j'ai fait un truc. Voilà. C'est à cause de l'ennui.
L'ennui accouche toujours de quelque chose,
voilà.
Finalement.
Alors, de nos jours, ça se fait certainement différemment, les chansons et l'envie de faire des chansons.
Alors Alain Souchon, depuis 30 ans que vous êtes le chanteur qui rend le mieux compte de nos états d'âme, full sentimental d'ailleurs, on est la preuve admirable, eh bien vous avez mis la barre très très haut. En plus, vous avouez, j'ai une exigence de simplicité qui rend les choses complexes. C'est pas usant d'être son propre point de comparaison quand on est si haut, là-haut.
Non, mais faut pas dire ça.
Non, j'assume la question.
Faire des chansons, pour moi, c'est une question que je me pose constamment. Quelle chance j'ai eu d'avoir ce don, cette envie. Vous savez, on est quand même béni des dieux de pouvoir faire des choses comme être Jean d'Ormesson. C'est pas de sa faute à Jean d'Ormesson d'être si intelligent, si beau, si sympa, si brillant. C'est pas tellement de sa faute. C'est béni des dieux. Moi, j'ai la chance de faire des chansons et d'avoir fait des chansons qui ont trouvé un écho auprès de mes contemporains et tout ça. Je considère que c'est une chance. Bien sûr, j'ai travaillé. Bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute une partie de comme si on était béni des dieux, quoi. Je sais pas. Un truc de hasard et de... C'est un don, quoi. C'est un truc qui nous échappe un peu.
Vous dites volontiers que vous êtes chanteur parce que vous ne saviez rien faire d'autre. C'est de la fausse modestie, ça, ou c'est un véritable aveu?
Non, rien faire d'autre. Non, je ne savais
rien faire d'autre.
Non. Non, j'étais très mauvais à l'école. J'arrivais pas à me concentrer bien sur les mathématiques, la physique, la chimie. Toutes ces choses m'ennuyaient. J'aimais bien l'histoire, j'aimais bien le français. J'ai été très marqué par un professeur qui s'appelait Monsieur Barlois en 5e et qui nous a fait toute l'année, il était sans doute un peu dingue, il nous a fait toute l'année sur la légende des siècles de Victor Hugo. Et donc, la légende des siècles, ça raconte toute l'histoire de l'humanité d'une manière dingue, comme le sait le faire Victor Hugo. Et ça m'a passionné. J'avais 11 ans, ça devait être en 5e, oui, donc j'avais 11 ans parce que j'avais un an d'avance. Et donc, j'ai été passionné par ça, mais passionné par la musique des vers de Victor Hugo.
Mais vous n'êtes pas devenu écrivain, vous êtes devenu chanteur.
Oui, mais parce que je vous dis, la musique des mots, la musique des vers de Victor Hugo, c'est une musique quoi. La poésie, c'est de la musique. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et après, j'ai cherché dans la bibliothèque de mes parents tout ce qui était poésie. En faisant des choix, évidemment, j'étais peu attiré par Paul Valéry à cause de la complexité de ce qu'il raconte et en même temps absolument transcendé par Guillaume Apollinaire.
Ou Rimbaud, mais en même temps, on comprend rien. Du Bel Air.
Oui, j'adore. Et Ronsard, Du Bel Air, Baïf, tous ces gens-là. Oui, j'ai adoré, oui.
Alain Souchon, vos proches affirment que si vous n'aviez pas réussi dans la chanson, vous auriez pu devenir délinquant. D'ailleurs, Laurent Voulzy, votre ami frère, vous surnomme le romantique délinquant. Ils exagèrent à peine quand ils disent ça.
Oui, parce qu'il faut avoir un courage que je n'ai pas pour avoir un revolver, rentrer dans la banque, dire « Oh les mains, donnez-moi le pognon ou je tue tout le monde ».
Et en même temps, il faut un sacré courage pour monter sur scène devant 10 000 personnes
et faire se lever
la foule.
Oui, il faut vaincre sa timidité. Ça a été gâché. Toutes ces années que j'ai passées à chanter ont été gâchées par le trac, oui. Qui m'enlevait du plaisir. On me demande souvent alors le plaisir que c'est quand vous voyez tous les gens applaudir et tout. On est concentré sur ce qu'on fait. Avant, on est malade de trac. Et pendant, on est concentré sur ce qu'on a à dire, à faire, à chanter, les notes, les machins et tout. On n'est pas tellement à jouir de... évidemment, les applaudissements font très plaisir, mais c'est pas aussi cool qu'on te croit, quoi. mais alors, je tutoie. Tu sais bien ça.
Je m'en souviens.
Voilà.
Un peu. On se retrouve tout de suite en compagnie d'Alain Souchon.
Un tête-à-tête d'une heure pour retracer le parcours d'un invité, c'est « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Jusqu'à 16h cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit un artiste incontournable de la scène française, Alain Souchon.
Alain Souchon, ça vous amuse quand on vous dit que vous représentez la première génération d'adultes inachevés ?
Je comprends pas ce que ça veut dire.
Dans l'histoire de l'humanité, soudain, l'homme était avec ses codes bien déterminés. Et voilà qu'arrive, dans les années 70, Alain Souchon qui nous chante « Allô, maman Bobo » qui assume sa part de fragilité, de délicatesse.
Et ses questionnements. Enfin, c'était pas un grand événement.
À côté de la virilité, c'était pas un grand événement qui vous a valu tout de même la couverture de l'Express.
C'était sympa. J'ai vécu ça avec beaucoup de plaisir parce que les hommes sont tous comme ça, avec une part de féminité, de faiblesse, tout en voulant montrer une certaine force. Mais c'était sympa de chanter ça. Et que ça résonne dans la société. Ça m'a fait plaisir, bien sûr.
Vous avez une enfance fragmentée par des histoires de divorce et de remariage. Vous avez été mis en pension à l'âge de 7 ans en Suisse, chez des protestants. C'est terriblement jeune, 7 ans, pour être immergé dans la solitude d'un pensionnat.
Non, j'étais élevé par une famille suisse et puis après ça a changé. Mais à 7 ans, on m'a mis, justement au moment où j'ai changé de famille, on m'a mis, oui, à aller en pension. Et c'était trop jeune, 7 ans. J'étais un peu triste, oui.
Il paraît qu'à 12 ans, Alain Souchon, vous espériez devenir prêtre. Alors, oui. Je peux vous demander ce qui vous a réaiguillé, j'ai envie de dire, vers un monde profane.
J'étais impressionnable. Je vous dis, quand j'ai découvert Victor Hugo à 11 ans, j'étais absolument transporté. Et ben là, quand j'ai fait ma communion, puis après ma confirmation, on allait faire des retraites et tout avec les, et ce que me racontaient les prêtres et tout ça, j'étais très pris par ça et j'avais envie d'être prêtre, oui, bien sûr. Non, même si ça paraît idiot comme ça, mais j'étais très pris par ça, ça me plaisait beaucoup. De donner sa vie aux autres comme ça. Vous savez, les gens de... Les religions, après, on s'en est beaucoup moqué, tout ça. Bon, et puis... Alors, c'est un gros problème, maintenant, avec les islamistes extrémistes et tout ça. Alors, mais j'habite en face d'un monastère de bonnes sœurs qui passent leur temps à se dévouer aux autres, quoi. Elles se lèvent très tôt le matin, elles vont faire des piqûres, elles font tout gratuitement, elles sont là. Je trouve ça merveilleux. J'aime pas qu'on dise du mal de la religion à cause de ça. Enfin, ma religion catholique est la seule que je connaisse. Et la protestante, mais la religion chrétienne, je trouve que ça a apporté pas mal de trucs positifs. Et puis aussi des choses négatives, bien sûr.
Il faut toujours garder un œil inquiet sur le destin. Vous avez 15 ans, Alain, lorsque votre père disparaît dans un accident de voiture. La certitude que tout était mieux avant, est-ce qu'elle prend sa source dans cette disparition ?
Un peu, oui, sans doute, oui. que tout était plus clair et plus organisé, qu'après c'est devenu un peu fouillis dans ma tête. J'ai un peu quitté ma famille parce que c'était un peu lourd et j'étais très branché sur des copains.
J'étais tout le temps. Vous avez inventé une autre famille.
Un peu. Ouais. Alors, ils étaient très gentils dans ma famille, hein. Mais je fuyais le côté lourd du truc, quoi. C'était pas très drôle. Donc j'allais beaucoup avec des amis avec qui on était trois. On avait envie. Il y en avait un qui était très branché sur le fait de plaire aux filles, de faire la ribouledingue. Et puis un autre qui était très branché sur la nature et qui est devenu guide de montagne, qui habite à Barcelonnette maintenant.
Et vous étiez très branché sur
moi,
quoi
j'étais branché,
entre ces deux
alors
amis.
Justement, j'allais de l'un à l'autre. J'étais fasciné par mon copain qui était beau et qui plaisait aux filles, à un point dingue. Non, mais il y a des gens comme
vous
ça.
Vous observiez.
Non, mais j'essayais de faire pareil, avec moins de succès.
Finalement, Alain Souchon, la première personne qui s'est emparée d'un stylo dans votre famille, c'est votre maman qui, pour subsister donc après la disparition de votre père, s'est mise à écrire des romans pour la collection Arlequin. Est-ce que vous penchiez sur ces manuscrits quand elle n'était pas à son bureau, votre mère ?
Oh ben non, mais je lisais ces bouquins parce que c'était sympa, c'était des petites histoires faciles.
Mais vous savez, ma mère, elle aimait. Étaient publiés ?
Oui, bien sûr. Ah oui, pas sur les manuscrits, non, Et c'était très mignon comme elle faisait ça, ma mère, parce qu'elle faisait ça vraiment pour gagner de l'argent. Elle faisait son canevas, puis elle racontait l'histoire, des histoires comme ça, comme il y a dans la collection Arlequin. Mais c'était une femme cultivée qui aimait beaucoup Kafka, je me souviens, et qui faisait ça en étant consciente qu'elle faisait de la littérature légère. Et c'est ça que j'aimais bien, c'était sympa. En même temps, je la voyais bosser avec sa machine à écrire tout l'été, je me souviens. Des fois, elle butait sur des... Elle savait plus comment continuer son histoire et ça la tourmentait.
Elle vous en parlait ?
Non.
Jamais ?
Non, elle disait « Oh là, j'y arrive plus, là. » Non.
Alors, votre maman, au tout début des années 60, vous a envoyé au lycée français de Londres. Vous avez passé 18 mois dans ce Londres qui allait devenir la capitale des 60s. De quoi vous avez eu la révélation là-bas ? C'était un bouillonnement.
Je vais vous dire, ça va vous paraître très vulgaire. Les garçons français avaient une réputation auprès des Anglaises d'être des types formidables.
Vous en avez profité ?
J'en ai un peu profité. J'étais jeune, j'avais 16 ans, je crois. Et je voyais des filles qui me trouvaient bien parce que j'étais français. Je les embrassais, tout ça me plaisait, quoi. C'est ça surtout qui m'a beaucoup plu en Angleterre, avec la découverte de la musique, parce que j'étais logé dans une famille où il y avait un garçon qui appartenait à une paroisse, et dans cette paroisse, c'était à l'anglais, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de guitare, il faisait beaucoup de chansons, et des trucs assez entraînants, beaucoup plus rythmiques que ce qui se faisait en France dans les églises. Et ça me plaisait, alors j'allais à une espèce de patronage, quoi.
Et j'aimais cette musique-là, c'est un peu de la libido sonore.
Oui, je leur montrer des chansons de Brassens qu'ils aimaient bien. Et puis, j'ai eu des nouvelles d'ailleurs de gars de cette époque-là, il n'y a pas tellement longtemps. Ça m'a fait très plaisir.
Alors, c'est en revenant à Paris, Alain Souchon, après avoir à Paris découvert Brel, Ferré, Brassens et Barbara, que vous avez écrit vos premiers textes de chansons. Très sincèrement, j'aimerais savoir, rien n'était en place ou tout l'était déjà ?
Non, rien n'était en place.
Rien.
C'était très navrant. Non, c'était très navrant. C'était drôle, d'ailleurs, Laurent, quand il veut se foutre de moi, il me cite des chansons, de mes premières chansons. Il y en avait une qui s'appelait « Pas les oiseaux », qu'il fallait pas tuer les oiseaux. Non, pas les oiseaux, pas les oiseaux. Mais c'était ridicule un peu, mais que tous les... C'était mon apprentissage, c'est comme ça.
Nous dit l'auteur de Foule Sentimentale. On retrouve tout de suite Alain Souchon.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie se poursuit jusqu'à 16h sur Europe 1. On retrouve Isabelle Morizet et son invité Alain Souchon.
Alain Souchon, quand Jean Anouilh écrit que l'homme est un animal inconsolable et gai, il parle d'abord de vous.
Comme tout le monde, c'est tellement terrible de vivre et puis de se dire que ça ne va pas durer. Et tout. Ben d'ailleurs, Francis Cabrel, il chante ça, là, il dit... On se dit qu'on était parti pour rester, mais en fait, on va pas rester. Oui. Je l'ai vu l'autre jour, je lui ai dit bravo ta phrase. Et il m'a dit oui, mon jeu de mots, il est sympa.
Donc, si je vous demande quelle relation vous entretenez avec le temps qui file.
Ben oui, on n'aime pas.
On n'aime pas, ça agace.
Il faut peut-être se griser, faire de la politique, vouloir être président de la République et tout ça, vouloir rester dans l'histoire, essayer de... Je sais pas ce qu'il faut faire pour...
Ça vous fait bien rire, la postérité, Alain Souchon.
Ah oui, Ah non, mais je ne suis pas concerné par la
prestige. Bien sûr, mais vous pourriez
mais les hommes politiques,
par la beauté des textes.
On voyait bien
textes.
Que Mitterrand, il voulait être dans l'histoire, dans les livres, il voulait continuer à
certes,
vivre.
Mais certains auteurs, compositeurs l'espèrent aussi.
Bon, je sais pas. Non, je ne sais pas. Peut-être que Paul McCartney, il a raison, il restera dans la mémoire des gens pendant longtemps. Comme évidemment, c'est... Je suis toujours fasciné par, par exemple, des gens comme Frédéric Chopin qui ont vécu pas longtemps, quoi. Mmh. Pas longtemps. Il est mort, il avait la trentaine ou un truc comme ça, enfin, 38 ans, je sais pas. Et qui ont laissé une telle trace et tout. Alors, il continue à vivre. Ça, c'est sûr, mais sans ça.
Vous dites, Alain Souchon, que Dieu est une belle invention humaine. Vous aimez les églises, car on a besoin de mystère. Vous aimeriez être croyant, prier avec ferveur, mais vous ne croyez pas en Dieu.
Bah,
qu'est-ce qui fait obstacle? Vous n'y arrivez pas.
Bah non, bah, je sais pas.
C'est contrariant d'avoir envie de la foi et de ne pas parvenir à la trouver.
Oui, alors il y a des gens qui ont trouvé la foi comme ça en une seconde. Paul Claudel, je sais pas ce qu'il faut. Juste avant de venir, je suis tombé sur un truc sur la Grande Chartreuse. Les moines de la Grande Chartreuse, ils vivent séparés du monde et séparés d'eux-mêmes. Entre eux, ils ne se parlent pas. Ils vivent dans le silence complet et tout. Ces choses-là me fascinent. J'aurais aimé avoir la force d'âme de faire ça.
Pourquoi emmenez-vous une Bible quand vous prenez la mer sur un voilier ?
Oh, pour lire les histoires.
Vous pourriez lire des histoires dans un autre ouvrage que dans la Bible.
Des histoires pornographiques, mais non, j'aime bien la Bible.
Pourquoi la Bible ?
Mais parce que c'est génial, c'est l'humanité entière qui a lu ça. On se retrouve avec tous les autres hommes à se poser 1000 questions. Cette histoire de Messie envoyé, les Juifs qui ont été en rapport avec Dieu, cette puissance. Enfin, tout ça me fascine, comme ça fascine tout le monde, de toute façon.
J'évoquais tout à l'heure votre fragilité, on vous dit toujours timide, délicat, et effectivement c'est sans doute l'héritage de la fameuse chanson Allô Maman Bobo dans les années 70, mais il faut une force, une détermination phénoménale pour faire la star sur scène depuis 40 ans. L'homme est fragile, mais l'artiste est assez irréductible. Vous êtes un irréductible, Alain Souchon.
Oh, vous croyez? Je sais pas, je considère que j'ai de la chance que ça dure. Non, mais je suis même étonné. Je me dis, mais je travaille, hein. Quand on a fait le dernier disque avec Laurent, ça m'a donné beaucoup de difficultés de faire des chansons pour deux. J'ai l'habitude de donner mon petit point de vue à moi, puis de le voilà.
Et là, il fallait trouver
là,
des causes communes.
Là, il fallait trouver les deux. Moi, je peux pas dire j'aime les filles comme ça qui ont des énormes seins et une coiffure rousse. Si par exemple j'avais envie de dire ça, lui il va me dire non mais t'es dingue, moi elle me plaise pas du tout les filles comme ça.
Chante ça tout seul.
Donc il faut trouver une fille qui nous plaise à nous deux. Enfin je dis ça pour rire, hein, mais vous voyez.
J'attrape la pierre que vous tendez parce que je crois savoir que, par exemple, je veux du cuir, des gros seins, des gros culs. Vous avez chanté ça il y a quelques années. Il paraît que c'est à cause d'une carte postale que David McNeil vous a envoyé, avec un petit mot d'Yves Montand, en bas de la carte, il y avait la phrase « Je veux du cuir, des gros seins, des gros culs ». Tu seras incapable, Souchon, de chanter ça, c'est vrai? C'est vrai?
Oui, parce que j'ai commencé la chanson, j'y arrivais pas. Souvent, je demande à David « Aide-moi, j'y arrive pas » et tout. Il m'envoie le texte fini. Et puis après, cette carte postale signée de lui, d'Yves Montand, qui me disait « Tu seras pas capable de chanter ça, je veux des gros seins, des gros culs ». Ça m'a amusé de chanter ça. C'est pas vrai, ce qui est merveilleux. Enfin, c'est pour rigoler, parce qu'on est les filles, c'est une attitude générale et un regard. Et c'est une silhouette générale, une façon d'être. On tombe amoureux d'une façon d'être.
C'est délicieux parce que vous dites toujours les filles et les garçons, et pas les femmes et les hommes. Et effectivement, il y a ce parfum de
non, il y a ce parfum de juvénilité
que je trouve caressant.
Non,
voilà.
Oui, mais parce que j'ai toujours dans mon métier, ça doit être une déformation, une vision un peu adolescente du monde, des choses et tout ça, des puissants, de l'argent, des filles.
Vous voyez, ça préserve du temps qui passe finalement de faire le chanteur.
Un peu. Mais je ne me force pas. Alors, ça, c'est devenu sans doute un tic naturel. Et peut-être que maintenant, ça fait un peu vieux con.
Ne changez rien, Alain Souchon. On s'interrompt un bref instant. Mais on se retrouve tout de suite après.
Europe 1.
Et à 15h30, on retrouve Isabelle Morizet et son invité Alain Souchon qui finalise l'enregistrement de son nouvel album dont la sortie est prévue pour la rentrée 2019. La conversation se poursuit. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Alain Souchon, ça fait donc 40 ans effectivement qu'avec, vous le dites, votre frère, vous tissez la bande-son de nos vies. À propos d'ailleurs de Laurent, vous dites « ma mère ne l'a pas reconnu comme son fils, mais c'est bien effectivement mon frère ». Or j'ai appris une chose très inattendue, on vous imagine inséparable, mais vous pouvez, paraît-il, rester 6 mois sans vous voir.
Ah oui, oui.
6 mois ?
Oui, mais on a des vies très, très séparées, très différentes, et on travaille ensemble. Et quand on travaille, on a du plaisir à être ensemble. On va se balader dans la nature, on se baigne, on fait là, puis depuis le soir, on bosse. Mais après, une fois que le disque est fait, qu'on a chacun part dans ses répétitions, ses tournées, ses... Vous voyez, on fait un disque pour Laurent, après, il part, il est projeté. Moi, pendant ce temps-là, j'écris des chansons pour moi, et tout ça. Donc, on reste 6 mois, 8 mois sans...
8 mois.
Non, mais on se donne un coup de fil de temps en temps.
Bon, mais... vous nous rassurez, Alain. Mais alors, à part une même passion pour la même musique, qu'est-ce que vous partagez et qu'est-ce qui vous distingue ?
La nature.
Oui, la nature, ça vous partagez.
Il aime la nature. Ouais. Il aime cette inquiétude de savoir s'il y a un dieu ou s'il n'y en a pas. J'aime bien qu'il soit un peu inquiet. Moi aussi, lui, il est plus sûr que moi, mais bon. Alors, on parle, voilà, les filles. On parle des filles, t'as vu Isabelle Morizet, un beau sourire et tout, ah, tu trouves, ouais, ouais, moi j'aime bien avoir, remarque moi aussi, bon, ouais, donc on discute de trucs comme ça. On parle de politique,
ouais.
On parle de tas de choses, on aime bien être ensemble, on est vraiment des amis. Ce qui est bien dans notre façon d'être amis, c'est qu'on laisse des longues périodes où on ne se voit pas. Donc après on est content de se retrouver. Et puis, on a un lien qui nous dépasse, c'est-à-dire qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste amis parce qu'on aime bien être ensemble, c'est parce que on a un travail à faire ensemble, un travail où on est extrêmement récompensé et ça nous sidère. Moi, je me dis tout seul, je fais des chansons et tout, mais j'aurais dit tout seul, j'aurais jamais eu le succès que j'ai eu. Et lui se dit pareil, donc on a besoin l'un de l'autre d'une manière un peu magique, qui nous dépasse.
Vous dites, avec Laurent, on ne se touche pas, on ne se prend pas dans les bras,
on
ne s'embrasse pas comme...
Pas ensemble,
non, non, mais on ne s'embrasse pas comme le font avec tant d'effusion les gens du showbiz, n'est-ce
oui,
pas
oui.
C'est pas du tout une amitié
non.
tactile.
Ah non. Non, non, mais parce que moi, je suis d'une génération où les garçons s'embrassent pas. Ça a commencé, le showbiz, vous savez, c'est les gangsters de l'époque de Frank Sinatra. C'est les Italiens qui se prennent dans les bras, qui se tapent sur le dos
voilà,
comme ça en s'embrassant.
Mains,
et le lendemain, ils se tuent à coups de revolver
voilà.
ou ils envoient des tueurs. Non, mais ça vient de là. Mais quand j'ai commencé dans la vie à vivre, les hommes, ils s'embrassaient pas. Non, mais c'est vrai.
Tous les deux. Donc, avec Laurent, dans une autre vie, vous avez fait partie des Chœurs Vaillants.
Oui.
Cet amour des cantiques que vous chantez à deux voix,
oui.
C'est l'héritage de ça, des Chœurs Vaillants ?
Ah oui, j'aimais bien, oui, oui, on chantait, je sais plus ce qu'on chantait, mais les scouts ont mis le feu au bois résine, des conneries comme ça.
Les scouts ont mis le feu.
J'aimais beaucoup. La vie d'équipe, le fait d'avoir des responsabilités, de partir faire des cabanes dans les bois de Meudon et tout, là. J'aimais bien ça, oui, oui, oui. Puis d'avoir des copains, de... Ouais, même la discipline m'embêtait pas, on nous mettait en rang, on disait, cœur vaillant. Alors on répétait, rien d'impossible, prenez vos distances et tout, ça me déplaisait pas. Non, mais c'est vrai.
Alain Souchon, il paraît qu'avec Laurent, vous allez dans une abbaye en Bretagne où les religieuses chantent sans qu'on puisse les voir.
Ah oui, c'est merveilleux.
On entend
ça.
Juste le bruissement de leurs robes.
L'abbaye de Kergonan.
L'abbaye de Kergonan. Mmh. On entend donc le bruissement des robes derrière les parois, des micros sont branchés et on est emporté par le son sans l'image. Le mystère amplifie la beauté.
Non, mais c'est extraordinaire, ça, l'abbaye de Kergonan. Vous vous asseyez, c'est comme une église, comme une autre. Et puis, il y a, à droite du chœur, il y a un endroit. Et à certaines heures, donc vers 4h30 je crois, vous allez vous installer. Et là, vous entendez, dans le silence de l'église, d'un seul coup, un bruissement de robe. Un bruissement de robe qui est très beau. Et puis d'un seul coup, elles se mettent à chanter en chœur. D'une manière, mais c'est alors ça vous emballe, hein, ça vous emporte, hein, c'est magnifique. Elles chantent vachement bien.
Ça y est, je suis dans l'abbaye de Kergonan. Laurent désormais vit en Angleterre, dans le Surrey. N'est-ce
yes.
pas? Yes. Vous pourriez, comme lui, quitter la France?
I like my country very much. Non, c'est vrai. Je crois pas. Oh, j'aime beaucoup la France, moi. J'aime beaucoup... Alors, je sais pas si je pourrais aller vivre en Angleterre définitivement, mais parce que j'aime autant l'Italie, j'aime beaucoup l'Espagne, mais l'Italie me fascine complètement. Alors, je sais pas, je crois pas que j'irais, j'aime bien vivre en France. Non, mais...
Et lorsque vous vous retrouvez donc pour travailler, c'est plutôt sur les terres anglaises de Laurent ou bien sur vos terres à vous?
On a été un peu en Angleterre, là, pour chez
pour,
lui.
Pour l'album en duo.
Pour l'album en duo. Puis, on a été dans le sud, parce qu'il a un petit bateau à voile dans un petit port qui s'appelle le port des Fourmis. Et on est allé là. Et puis, on écrivait des chansons. Ça m'a fait aimer la Côte d'Azur beaucoup, parce que c'est un endroit très privilégié par rapport à la Côte d'Azur, qui est quand même trop construite et trop fêtarde. Mais là, c'est un endroit merveilleux. Et, alors voilà, on a travaillé là, en Angleterre, et puis un petit peu... je vais beaucoup vers Blois. Alors on est allé un peu vers Blois aussi. C'est ça qui est génial, c'est que on dit à nos familles, ben on est obligé d'aller travailler. On est obligé d'aller travailler.
Et en fait, vous partez alors d'abord en pique-nique.
On
tous
part
les deux.
D'abord en pique-nique. Non, mais c'est tout à fait
avec,
ça.
Avec les provisions.
Oui. Puis après le soir, on dit bon, allez, faut quand même faire des chansons.
Alors on sait, Alain Souchon, que vous êtes avec Laurent. En fait, vous êtes à deux un formidable auteur-compositeur. Pourtant, c'est seul que vous avez façonné la chanson considérée comme l'hymne désenchanté des temps modernes, un hymne absolu qui est repris à cœur perdu à chacun de vos concerts. Full sentimentale. Ouais. Cette chanson, elle est née il y a 22 ans, mais la culture de masse et la société de consommation ont aggravé les ravages, donc on a de plus en plus soif d'idéal, d'un mieux, d'un rêve, d'un cheval.
Moi, ça me fait ça, c'est-à-dire je suis fasciné par la société de consommation à ce point-là, quoi. Ça me fascine. Ça me fascine parce que je suis pas du tout comme ça, mais en même temps je comprends, je me dis il y a un vide, puisqu'il y a plus de Dieu, il y a plus la politique, plus personne n'y croit, il y a plus d'espérance, enfin tout ça manque bien sûr. Donc il y a les sacs Chanel, il y a les bijoux, il y a les je sais pas, les chaussures avec le rouge dessous, il y a tout ça qui remplace. Mais il y a quelque chose de pathétique là-dedans et en même temps je ne critique pas, je dis pas moi je suis mieux que ça, hein. je suis comme tout le monde. Je crois pas beaucoup en Dieu et tout ça, bien sûr.
À chacun de vos concerts, le public chante d'une même voix, donc foule sentimentale, à votre place. Comment vous vivez le fait que le public, finalement, en ait fait sa chanson idéale?
Vous trouvez?
Oui.
Ouais, parce que vous êtes sympa.
Non.
Non, mais écoutez, on fait des chansons, vous savez, en ce moment, on chante plusieurs chansons, et c'est vrai que Foule Sentimentale, tout le monde la chante. Alors, il y a 5000 personnes qui chantent avec vous, ça vous rassure sur... Ça vous fait un bien énorme, évidemment, moi j'adore ça. Puis après, on chante Recollection, c'est la folie.
Mais
les
oui.
gens, ils chantent tous oui. Recollection aussi. Vous voyez, il y a un côté, on a fait ces chansons il y a longtemps, 22 ans pour Foule Sentimentale, 40 ans peut-être pour l'autre. Et les gens, on voit des gens qui ont 65 ans, qui ont 70 ans comme moi, et qui sautent en l'air en hurlant des chansons, des extraits, des chansons. Et puis, on a tous dans le cœur une petite ville. Alors, ça fait plaisir, quoi. C'est merveilleux, quoi. C'est de la jouvence.
Qu'est-ce que c'est bon de se balader avec Souchon. On le retrouve tout de suite.
Il est tout juste 4h20, la suite de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Nous sommes avec Isabelle Morizet sur Europe 1 avec son invité, l'auteur, compositeur, interprète et occasionnellement comédien, Alain Souchon.
Alain Souchon, oui. Lorsqu'on vous a découvert, refaites-moi oui comme ça.
Oui,
oui madame. Lorsqu'on vous a découvert en 83 dans L'été meurtrier de Jean Becker face à Isabelle Adjani, on s'est dit... que plus jamais le cinéma ne vous lâcherait. Tant vous étiez juste, vrai, désarmant. Or, c'est vous qui avez lâché le cinéma et sans état d'âme. Une vie d'acteur vous nourrit finalement moins, vous transporte moins qu'une vie de chanteur.
C'est-à-dire, c'est le mécanisme de l'acteur que j'avais des difficultés à faire. J'admire énormément les grands acteurs comme... Alain Delon dans Le Samouraï, Gérard Depardieu dans plein de films, Jean Rochefort et tout. Alors, moi, je suis pas du tout à la hauteur de ces gens-là. Mais pas du tout. N'importe qui peut, pris en main dans une belle histoire, une histoire prenante, disons, comme L'été meurtrier, pris par Jean Becker d'une manière aussi paternelle et explicative et tout là, n'importe qui aurait fait ce que j'ai fait.
Non.
Je vous le dis.
Il s'agissait en plus du premier rôle masculin face à Jenny.
Mais ce que je vous dis, c'est pas de la coquetterie. C'est vrai. Et, Être acteur, c'est brûler pour quelque chose pour lequel je ne brûle pas. Je me suis appliqué, j'ai fait ce que j'ai pu, j'étais entouré, je m'entendais très bien avec Isabelle, elle était très gentille avec moi, donc ça facilitait les choses. J'ai fait un autre film avec Catherine Deneuve. Vous savez, quand on a quelqu'un en face de vous qui fait tout pour que vous soyez bien, c'est vachement bien. Avec Catherine, le premier film que j'ai fait, c'était avec Catherine Deneuve.
Dirigé par Claude Berry,
je vous aime. Elle faisait tout pour qu'elle savait bien que je connaissais pas le métier et tout. Je lui disais, mais il faut parler fort. Il faut parler doucement, qu'est-ce qu'il faut faire. Et elle était merveilleuse, quoi, parce que c'est une femme extraordinaire, Catherine Deneuve. C'est une femme merveilleuse de bienveillance et de gentillesse et d'altruisme et tout. Elle est merveilleuse. Donc, j'ai fait ça et j'ai eu du succès. Ce que j'ai aimé dans le cinéma, c'est les rapports avec les metteurs en scène.
Alors justement, on parle du film Je vous aime avec Catherine Deneuve. Claude Berry en était le metteur en scène. Claude Berry a dit de vous, justement, que lorsque vous vous trouviez devant la caméra, vous étiez tendre, grave, extravagant et nageant dans votre humus habituel, le sentiment. Jacques Doyon aussi, d'ailleurs, avait été fasciné par votre fausse légèreté comme ça sur un plateau de cinéma. Finalement, est-ce que ça a été si facile que ça de décourager le cinéma français qui vous réclamait? Parce que le cinéma français vous réclamait et vous lui avez tourné le dos.
Non, mais je ne suis pas... Oh, écoutez, pour faire ça, pour faire des chansons, ça me brûle.
D'accord.
Pour faire l'acteur, ça ne me brûle pas.
Mais le cinéma vous a offert des amis, vous évoquiez Deneuve à l'instant.
Alors ça, c'était génial.
Thierry Lhermitte, Chamber
King. Bien sûr, c'est mon copain Thierry, et c'est mon ami, vraiment un homme intelligent, qui a une vision du monde comme j'adore, qui a une vision de son métier comme j'adore. C'est un homme extraordinaire. Il y a deux personnes qui m'ont beaucoup impressionné.
Oui.
C'est lui et Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, c'est un homme aussi impressionnant d'intelligence humaine. Voilà. Et sans ça, ce qui était bien dans le cinéma, c'était de rencontrer les metteurs en scène qui voulaient se mettre, que je sois à leur place. Et, enfin, je veux dire que leur premier rôle, c'était un peu eux, ils s'y mettent, quoi. Donc, ils me parlaient. D'un seul coup, ça crée des rapports humains très denses. Donc, ça crée des rapports vachement bien avec Pierre Garnier-Defer, avec Jean Becker, avec Claude Berry, Jacques Doyon et tout. C'était génial. Et puis, avec les autres, j'ai eu des moments merveilleux avec Jean-Louis Trintignant à attendre des heures de préparation de lumière dans sa bagnole en écoutant une cassette de Léo Ferré qui s'appelle La mémoire et la mer et tout très mal enregistré avec des bruits hérissants. Et à discuter avec lui et tout ça. Évidemment, les femmes, Isabelle Adjani.
Et ce sont ces moments-là qui vous restent.
Oui,
en mémoire,
bien plus que les moments de travail. Puis alors, j'ai été aussi dans une baignoire, debout dans la baignoire, tout nu, dans une salle de bain grande comme ce studio, comme ça, avec des gens tout autour qui disaient « Attends, faut pousser la caméra là, attendez, on va prendre la mesure et tout, avec la script qui regardait mon lapin en se disant « Celui de mon mari est peut-être mieux, je vais voir. » Enfin, et donc, j'avais le cafard. Non, j'avais le cafard, je vous dis franchement.
Bon, donc le cinéma, en tout cas, vous a fait rencontrer des gens assez extraordinaires et puis vous avez respiré les parfums du 7e art au travers d'autres rencontres, comme celle tout à fait surréaliste que vous avez eue, par exemple, avec Arletty. Arletty, vous êtes allé voir chez elle et qui aimait vous répéter « Ah, toi Alain, tu es Proustien ».
Oui.
Proustien.
Je crois que c'est à cause de ma chanson « Il y a de la rumba dans l'air ». Oh, ta chanson, il y a de la rumba dans l'air. C'est Proustien. Toi, t'es Proustien. De toute façon, tes chansons font toujours référence à des... Enfin, peu importe ce qu'elle disait, ce qu'il y a, c'est que j'étais là devant cette femme qui était recroquevillée. Elle se tenait facilement les genoux serrés contre sa poitrine en se tenant les genoux comme ça. Elle était maigrichonne.
Presque aveugle, déjà.
Elle était aveugle, complètement. Oui. Impressionnant d'être devant Arletty, j'étais fasciné, j'étais ému, donc je lui ai demandé si je pouvais fumer. Ah ouais, moi j'ai arrêté parce que je couchais avec un Allemand qui était producteur de cigarettes, alors j'ai arrêté de fumer pour le faire chier. Non mais... Non mais ouais, j'étais bouleversé, quoi, d'être devant Arletty.
Alors, puisqu'on parle de fascination, on parle d'Arletty, parlons de Sagan. Quand Françoise Sagan, Alain Souchon, vous écrit pour vous dire combien vos chansons la touchent, comment se peut-il que vous ne lui répondiez pas ?
Mais parce que j'étais très impressionné par Françoise Sagan, c'est un personnage à cause de son immense intelligence et tout. Enfin, c'est idiot de dire ça, mais c'est quelqu'un de très impressionnant pour moi, Françoise Sagan. L'intelligence de tout ce qu'elle peut dégager quand elle parle de la vitesse, de l'amour des hommes, des machins, du jeu, de n'importe quoi, du temps qui passe, c'est toujours d'une perfection, c'est extraordinaire, donc je n'ai pas osé.
Mais lorsque ensuite, l'auteur de La Chamade et d'Aimez-vous Brahms vous invite à passer chez elle le réveillon avec des amis.
Oui, j'ai pas osé y aller.
Voilà, vous vous dérobez encore.
Oui, je me suis dérobé parce que... Ah non, mais son mot pour dire qu'elle aimait bien, qu'elle était venue me voir à l'Olympia, qu'elle avait adoré le spectacle, évidemment que je le garde précieusement et que ça m'a beaucoup touché. Mais après, quand elle m'a invité, venez passer le réveillon avec moi et tout ça, avec mes amis. Mais enfin, ses amis, c'était des gens tous plus hyper brillants les uns que les autres, des Frédéric Botton, des machins, le danseur merveilleux,
Jacques Chazot,
tout ça, c'était des gens qui avaient un sens de la répartie, de là. Moi, je me sentais pas du tout à la hauteur, j'ai pas osé.
Qu'est-ce qui vous est le plus nécessaire, en fait ? Aimer ou être aimé ?
Ah là, c'est difficile comme question. C'est beaucoup plus beau de dire que c'est aimer, mais je qui est mieux, mais j'aime bien être aimé.
On retourne tout de suite Alain Souchon.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Une heure d'entretien pour se plonger dans le parcours d'une personnalité sous le regard bienveillant d'Isabelle Morizet. C'est Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, tous les week-ends de 15h à 16h. Et bien, on la retrouve en compagnie de son invité pour quelques minutes encore, Alain Souchon.
Alain Souchon, il serait bien naïf de croire que le succès fait d'une star l'ami des gens. Vous, en chantant nos mots avec vos mots, vous êtes devenu l'ami des gens. Et vous êtes devenu une sorte de conscience. Vous voyez de la responsabilité là-dedans ?
Non, mais pas une conscience, mais...
Alors une
là,
conscience.
L'ami, ouais. Alors ami, moi je me sentais, j'étais très timide. Je me sentais très isolé, et le fait de devenir chanteur, même si c'est un petit peu artificiel ce rapport qu'il y a avec le public entre un chanteur et un public, mais c'est quand même un peu de l'amitié, ça me remplit, vraiment ça me fait vivre.
Il y a tout de même beaucoup d'impudeur dans ce métier, parce qu'on est sans cesse obligé de s'écouter quand on est chanteur.
Ah oui, mais alors, je ne lis pas les articles qu'on me fait sur moi, je n'écoute pas mes disques,
lorsque vous travaillez en studio sur l'enregistrement d'un album...
Je demande aux gens, ça va, vous trouvez ça bien Et vous savez, c'est un peu un métier monstrueux, c'est-à-dire que vous le savez bien puisque vous travaillez à la radio... On n'aime pas entendre sa voix, on la trouve pas bien sa voix, on trouve qu'on n'est pas bien, c'est comme ça, c'est la nature humaine, on n'est pas fait pour soi, on est fait pour les autres. Alors, donc c'est aux autres que je demande, ça vous va, comme je chante là, ça vous convient, ça va. Moi, je ne sais pas bien juger. Les vrais chanteurs, mieux moi, ils savent juger, ils disent non, là je suis pas bien, je vais recommencer. Les vrais acteurs, c'est pareil. Et il faut avoir une espèce de sagesse pour pouvoir se juger comme ça. Moi j'y arrive pas. Donc, je demande aux autres.
Et je garde votre
fait pour
formule
aimer les autres.
Qui est absolument admirable. On n'est pas fait pour soi, on est fait pour les autres.
Ben oui.
Alors, c'est donc la première fois, Alain Souchon, en 40 ans, que vous signez avec Woolsey, votre frère, un album en duo. Il vous a fallu 40 ans pour laisser monter l'envie d'un album à deux.
Oui, c'est bien ce que vous dites, l'envie de... Parce qu'on n'avait pas envie. On est très différents.
C'est comme s'il existait, en fait, depuis le début, cet album à deux, non ?
Non. On fait des chansons pour Laurent qui sont vraiment que pour Laurent. Que moi, dès que je travaille pour Laurent, j'adore ça, ce dédoublage de la personnalité. Je me mets à sa place, je me dis, alors l'enfance qu'il a eue, on l'appelait Blanche-Neige. Enfin, il a été un petit peu embêté, il n'a pas eu des parents, vraiment, ça a été le bordel et tout. Et puis, il a tous ses palmiers dans la tête qui sont quand même ses enfants, ses ancêtres et tout ça. Je me mets tout ça dans ma tête pour écrire des chansons pour lui. Et ça me plaît de faire ça. Et puis après, quand on fait les chansons pour moi, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je suis très différent et donc c'est sympa d'avoir ces deux personnalités, quoi.
Je vous souhaite, Alain Souchon, d'habiter votre rêve encore longtemps, très 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 longtemps. Et c'est très égoïste ce que je dis, parce que c'est pour nous, en fait. Je dépose un baiser sur votre joue et je vous dis à très bientôt.
C'est sympa. Non mais alors là, j'adore ça. Moi, alors je vous le rends, le baiser dans le cou.
D'accord.
Parfait.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, un entretien que vous pouvez d'ailleurs réécouter en replay et en podcast, comme tous les entretiens du week-end, hein, samedi, dimanche, de 15h à 16h. Il suffit d'aller sur europe1.fr. Demain, Isabelle Morizet tendra son micro à un grand couturier qui est aussi costumier et designer. Il s'agit bien sûr de Christian Lacroix. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs pour la rediff du week-end. Europe 1.